Là.
La source théologique
Ah, c'est très variable. C'est très variable. Alors, il y a des. Parce qu'au fond, on regroupe aujourd'hui sous le vocable évangélique un certain nombre de courants qui ont des origines extrêmement variables. Vous pouvez avoir ceux qu'on appelle les Ménonites, par exemple, qui eux sont les héritiers des anabaptistes du XVIe siècle. À la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, par exemple, mon homologue historien, Neil Blau, avec lequel je fais cours dans le cadre de l'Institut œcuménique, lui, il est mennonite. Et sa tradition, elle remonte au XVIe siècle, exactement comme la mienne, si vous voulez. Donc là, on a la même origine. Vous avez d'autres dénominations évangéliques, comme les baptistes, qui, eux, remontent au XVIIe siècle, donc ils sont un peu plus récents. Vous avez aussi toutes les traditions qui sont issues de ce qu'on appelle le grand réveil, le Great Awakening américain du XVIIIe siècle, hein, avec voilà, Jonathan Edwards, etc. Toute cette frange-là aussi, elle s'inscrit en gros dans le mouvement évangélique. Vous avez les mouvements évangéliques issus de ce qu'on appelle le second réveil, celui du XIXe siècle. Hein, parmi lesquels vous pouvez ranger aussi bien les darbistes que certaines formes évoluées de méthodisme, etc. Et puis, vous avez au XXe siècle un renouveau finalement de l'évangélisme, ou de l'évangélicalisme, puisqu'on devrait dire les evangelicals hein, à l'américaine, parce que évangélique, quand vous allez en Allemagne, protestant se dit evangelisch, protestant au sens de luthéro-réformé, comme on dit en France. Hein, donc le vocable peut être un petit peu mal compris. Donc il faudrait trouver un vocable en français qui n'existe pas. Et alors, ce mouvement évangélical du XXe siècle, il est né en particulier, disons, aux États-Unis, dans les années 20, en raison d'un refus, finalement, d'une certaine forme de modernité, et en particulier face à des questions comme la question ben voilà, de l'évolution des espèces, l'origine du monde, etc. Hein, vous avez le fameux, bon, je ne connais pas bien ce sujet, mais dans les années 20, aux États-Unis, vous avez le fameux procès du singe, hein, où finalement quelqu'un refuse d'envoyer ses enfants à l'école parce qu'on lui enseigne la théorie de l'évolution, et donc il est coupable de ne pas les envoyer, et donc le débat se déplace sur est-ce que finalement l'évolution a eu lieu. Et donc le juge doit au fond trancher, est-ce que voilà, on descend du singe ou pas. Enfin bon. Donc tout ce mouvement-là, qui est un peu le mouvement mais qui donc du coup traverse aussi les églises évangéliques. C'est-à-dire que le mouvement évangélique, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est un mouvement éminemment pluriel. Et vous avez toutes sortes de tendances dans ce mouvement-là. Et alors il faut ajouter un dernier élément dans cette histoire très rapide du mouvement évangélique, c'est l'émergence, à partir des années 50-60, de ce qu'on appelle le pentecôtisme. Hein, donc cette vision extrêmement charismatique de la foi chrétienne, qui a des racines protestantes, mais qui est aussi portée par des gens qui ne sont pas protestants. Vous avez des catholiques, vous avez des gens qui viennent, entre guillemets, de nulle part, tant et si bien que les sociologues sont assez tentés de considérer que le pentecôtisme, ben, c'est une nouvelle confession, en fait. Hein, vous avez le catholicisme, vous avez le protestantisme, avec les traditionnels, les évangéliques, vous avez l'orthodoxie, puis vous avez le pentecôtisme. Mais où est-ce qu'il faut le classer? C'est compliqué. Il y a des pentecôtistes qui se disent protestants. Moi, j'ai des étudiants pentecôtistes ici, ils se considèrent comme protestants. Ils se voient dans une ligne protestante. Mais vous avez des pentecôtistes au Brésil, par exemple, qui sont pas du tout, qui sont même en rupture avec le protestantisme, qui considèrent que tout ça, c'est Babylone, y compris certains évangéliques. Donc c'est très variable. Et même ces grandes familles évangéliques, si je prends les Mennonites ou les Baptistes, par exemple, vous avez des communions mondiales. Par exemple, les Baptistes, ils sont sur tous les continents. C'est une église extrêmement dynamique, qui est très ancienne. Hein, comme je le disais, elle remonte au XVIIe siècle. Mais elle est divisée. Vous avez des Baptistes qui sont progressistes, qui sont pour la bénédiction des couples de même sexe, qui sont des apôtres de la démocratie. D'ailleurs, vous avez des grands présidents progressistes américains qui sont baptistes. Hein, enfin, ça peut aller ensemble. Et vous avez toute une aile beaucoup plus réactionnaire À tel point que le mouvement baptiste, il est au niveau mondial, il est, ou il a été, parce que je suis pas l'actualité de très près, mais il a été au bord de l'éclatement. Idem des Mennonites. Les Mennonites, vous avez les Mennonites européens, dont certaines églises aux Pays-Bas ont des pasteurs homosexuels, etc., qui acceptent tout à fait l'idée de l'avortement. Et puis vous avez aux États-Unis leurs lointains parents, les Amish, qui sont pas l'incarnation, disons, de la mise à jour moderne la plus flagrante qui soit. C'est des Alsaciens, hein, à la base, les Amish, si on en a dans la salle. Je le signale au passage. Voilà, donc c'est vraiment un monde en soi qui a quelque chose de protestant, incontestablement, qui est protestant. Moi, je dis toujours, je considère toujours les évangéliques comme des protestants. Du reste, il m'arrive d'aller à Vaux-sur-Seine, à leur faculté évangélique ici en Ile-de-France, d'y intervenir. Voilà, on enseigne avec mon collègue Neil Blau. On a très bon rapport les uns et les autres. On vient de traditions historiques différentes, mais disons, on a de bons rapports. Après, effectivement, eux-mêmes, ils sont débordés sur leur gauche, les évangéliques historiques, par le mouvement pentecôtiste, par un renouveau charismatique aussi, donc les dons de l'esprit, etc. Et puis, en France, par, il faut bien le dire, l'arrivée de tout ce qu'on appelle les églises de migration. C'est-à-dire, c'est au fond le fruit des missions protestantes et évangéliques en Afrique qui nous revient en quelque sorte. Donc du coup, c'est un de nos enjeux dans cette maison, hein, je vous le cache pas, comme on est bien centré dans Paris, qu'on a des tarifs d'inscription qui restent intéressants, beaucoup de ces églises de banlieue, hein, ces fameuses églises de garage dont on entend parler à la radio, elles envoient des gens se former chez nous. Donc on est, moi je suis tout sauf face à un public de bons protestants qui descendent de la réforme, qui chantent « C'est un rempart que notre Dieu hein. ». C'est pas toujours évident, hein, d'ailleurs. Il y a parfois des moments un peu en tension, mais c'est vraiment un de nos enjeux aussi de former théologiquement ceux de ces gens-là qui nous sont envoyés ici. Et ça pose plein de questions, parce que quand vous avez dans votre salle de cours... descendant de protestants français dont la famille a fait carrière dans toutes sortes de domaines, qui a une culture théologique déjà inscrite pratiquement dans les gènes, et que vous avez par ailleurs des gens qui débarquent avec souvent même des problèmes en termes de lecture, de rédaction, etc. C'est pas seulement une question d'univers théologique et d'univers culturel, c'est aussi une question pédagogique. Donc ça, ça fait partie de nos enjeux aussi aujourd'hui, ici. Enfin, voilà, pour répondre un peu rapidement. Mais là, je ne sais pas si c'est au programme, hein, mais ce serait peut-être utile. Le grand spécialiste de ces questions, c'est Sébastien Fatt du CNRS, qui est vraiment un spécialiste de ces questions, qui lui-même est issu du mouvement évangélique, donc il vous en parlerait sans doute beaucoup.
Le terme de protestant, en fait, il vient de protester.
Ah, ben oui, c'est vrai, j'aurais pu vous le dire. Alors, 1529, Diète de Spire, en Allemagne, les États protestants d'Allemagne, enfin, luthériens d'Allemagne, se réunissent et l'empereur, donc Charles Quint, leur impose un certain nombre de contraintes. Et selon la logique parlementaire, entre guillemets, hein, de la diète impériale, ils écrivent une protestation. C'est ce que dans l'ancienne France, on appelait une remontrance. Hein. Une protestation en Allemagne, ça s'appelle comme ça en Allemagne. Et donc on va, de manière un peu dénigrante, dire « Ah, c'est nouveau, c'est protestant, ceux qui protestent. » Mais comme souvent dans ces cas-là, ce qui est d'abord moyen de dénigrement devient un étendard. Hein. C'est comme le mot puritain, c'est comme le mot huguenot, luthérien, calviniste aussi. Hein. Ce sont des insultes à la base.
Alors, justement, à la fin du XVIe siècle, que sont devenus le mouvement luthérien et calviniste? Est-ce qu'ils se sont développés dans des secteurs géographiques distincts? Est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'il y a une coordination?
Quand dites-vous à quel moment? J'ai pas entendu le siècle.
Juste après ce que vous avez dit.
Ah, alors.
À la fin du VIe siècle, par exemple.
Oui, alors, l'élément à prendre en compte, c'est le fait que Calvin avait parmi ses objectifs de réconcilier le courant luthérien et le courant zwinglien. 1547, les princes protestants luthériens d'Allemagne sont battus par Charles Quint. Militairement, ils sont écrasés. Donc Calvin est convaincu qu'ils ne représentent pas véritablement encore quelque chose. Il est même sûr qu'ils vont disparaître. Donc il change, c'est aussi un fin politicien. Il va clairement accentuer son rapprochement avec Zurich et la mouvance zwinglienne, même si théologiquement il est plus proche de Luther sur les questions de la Sève, etc. Et donc ça, les protestants, les luthériens allemands vont jamais lui pardonner, parce qu'au moment même où eux sont dans le caniveau, lui il change son fusil d'épaule, enfin, c'est-à-dire il renonce à cette grande union des protestants pour dire bah, je vais surtout travailler avec les zwingliens. Et donc de ce rapprochement entre Genève et Zurich, entre Calvin et les héritiers de Zwingli, va naître ce que l'on appelle le protestantisme réformé. Hein, donc notre faculté ici est une faculté luthéro-réformée, donc avec des qui forment en théologie les futurs pasteurs des églises réformées et luthériennes de France. Et ces deux courants, luthériens et réformés, ils vont se haïr jusqu'au XXe siècle. Ils vont même dans leur confession de foi, se condamner réciproquement. En 1580, vous avez la formule de Concorde, qui est un texte doctrinal luthérien. On dit à propos des Zwingliens, des calvinistes, qu'ils soient anathèmes. Hein, donc c'est excommunié. Enfin, il y a une vraie condamnation. Ensuite, si vous voulez. Le rapport va un peu s'inverser, c'est-à-dire que, comme le disait le sociologue Ernst Troeltsch, le luthéranisme, c'est l'affaire centrale de l'Allemagne. Parce qu'au fond, le luthéranisme va se répandre surtout en Allemagne et dans les pays scandinaves. Tandis que le calvinisme, comme disait Troeltsch, ce sera l'affaire du monde. C'est-à-dire que à partir de Genève, très vite, le mouvement se disperse aussi bien dans les pays de l'Est, en Hongrie, en Pologne, une très forte communauté calviniste encore en Hongrie aujourd'hui. Hein. Orban, d'ailleurs, en fait partie. Hein. Il s'y est converti, mais enfin, je n'en dirai pas plus. L'amiral Horthy aussi, d'ailleurs, était calviniste. C'est pas un beau tableau. Enfin, bref. Mais pour dire qu'il y a une forte communauté calviniste hein, en Hongrie. Par ailleurs, va aussi se répandre dans les pays anglo-saxons, donc l'Angleterre, l'Écosse en particulier, c'est ce qu'on appelle les puritains. Ces puritains, ils vont être, pas persécutés, mais enfin assez maltraités par le pouvoir royal anglais, qui donc va essayer de les chasser, parce que le pouvoir royal anglais veut bien d'une réforme, hein, bon ça j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être pu en parler aussi, mais il ne veut pas d'une réforme à la genevoise, c'est-à-dire avec des pasteurs en noir qui refusent les évêques, etc. Et donc ces puritains calvinistes anglais, ils vont décider de se réfugier dans les colonies anglaises, c'est le Mayflower de 1620, hein, donc les pères pèlerins, c'est des calvinistes qui fuient l'Angleterre à la base, hein, donc Thanksgiving, tous ces trucs-là, c'est le calvinisme qui va ensuite se développer aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on aime bien dire que les Américains, ils sont puritains, mais concrètement, les puritains, les vrais, je veux dire, les héritiers de ce calvinisme, de ce premier calvinisme, c'est une toute petite minorité, hein, parce que vous avez une immigration ensuite très diversifiée. Mais enfin, ça devient un mouvement très vite planétaire, pour le dire comme ça. Hein, vous savez, actuellement, la religion la plus représentée en Chine, devant même l'Église catholique, sauf faire ma part, c'est le calvinisme. Enfin, en tout cas, c'est un des grands mouvements, qui s'y développe. En Corée aussi, c'est d'ailleurs très difficile. Récemment, je vous dis ça, en tant que doyen, j'ai été contacté par le doyen d'une fac coréenne, à Séoul, qui me dit « On aimerait envoyer 50 étudiants en échange par année. Vous pouvez nous en envoyer autant. » Ben, ce ne sera castrer, extrader la moitié de nos étudiants de la faculté. Hein. Donc c'est pour vous montrer la masse, véritablement. Et ce sont des calvinistes purs et durs. Aux Pays-Bas aussi. Donc c'est vraiment... on pourrait dire au fond que le luthéranisme, ça devient une multinationale avec quelques pays vraiment qui se convertissent. Finlande, Suède, Norvège, Danemark principalement, et donc certaines régions d'Allemagne, puis ça en reste là. Il va y avoir une mission luthérienne vers les États-Unis, enfin les futurs États-Unis, mais au 18e, c'est très tardif, mais ça en reste là. Tandis que, donc c'est une multinationale, il y a quelques pays bien luthériens, mais c'est tout. Alors que le calvinisme, ça devient une internationale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas majoritaires la plupart du temps, mais ils sont quasiment partout. D'où la fascination qu'ont pu avoir certains sociologues comme Max Weber, hein, qui les voyait partout, y compris derrière le capitalisme. Hein. C'est une thèse qui est bien sûr contestable. Et donc, il a fallu attendre le XXe siècle pour que ces deux confessions se rapprocher. Je dois dire qu'ici, notre faculté a eu un rôle pionnier au XIXe siècle, parce que c'est la première faculté française après celle de Strasbourg, mais qui est perdue en 1871, à avoir des enseignants luthériens et réformés côte à côte, ce qui à l'époque n'est pas du tout évident. Et donc il y a un rôle un peu pionnier dans ce développement-là. Et puis en 1973, à la suite de longues négociations, vous avez un accord qui est signé entre les églises luthériennes et réformées d'Europe, ce qui s'appelle la Concorde de Leuenberg, qui permet la pleine communion des deux églises, en disant on a dépassé nos désaccords du XVIe siècle, donc ils ont dépassé le contentieux Zwingli-Luther, et donc la communion pleine et entière de nos églises, c'est-à-dire les échanges de pasteurs, voire la constitution d'églises dites unies, luthéro-réformées, est possible.
C'est ce qui s'est fait il y a 2-3 ans.
Et c'est ce qui s'est fait en 2013 en France, donc où les églises luthériennes et réformées ont décidé de former une communion d'églises. Ce n'est pas une fusion, il faut faire attention, les uns les autres ne seront pas contents. C'est une communion d'églises, donc techniquement les deux églises, au fond, les deux communautés ecclésiales existent toujours. On peut toujours dire « je suis réformé, je suis luthérien », mais il n'y a plus qu'une seule église au niveau national. Alors dans les régions, on a laissé la possibilité aux églises régionales de rester séparées. Il ne reste plus qu'une seule église qui est encore séparée, c'est les églises de la région Île-de-France, pour les réformés et les luthériens. Mais ils avaient un synode le week-end dernier pour décider eux aussi de ne former qu'une seule église régionale. Donc on est vraiment dans un processus de communion ecclésiale entre eux.
Les réformés sont plus influencés par Zwingli
et Calvin, oui.
Ou plus par Calvin.
Ça dépend. En France, les églises réformées, c'est clairement des églises qui sont issues du mouvement missionnaire qui va partir à partir des années 1550 de Genève et donc de Calvin. Calvin, son obsession, c'est de convertir la France à la réforme. Bon, il va échouer. Enfin, les églises réformées de France, elles sont les héritières de ce mouvement missionnaire du XVIe siècle, avec toutes les péripéties, alors ça c'est une autre histoire, toutes les péripéties qu'on leur connaît, hein, c'est-à-dire que cette diffusion de la réforme en France va aboutir à des tensions religieuses extrêmement fortes. La France au XVIe siècle, c'est 20 millions d'habitants, et on suppose que dans les années 1560, un peu plus tardivement quand même, 1570, il y a 2 millions de la population qui sont protestants, qui sont en phase de se convertir. Donc vous avez 10% des Français qui sont protestants. Aujourd'hui, c'est 1,8%. Hein, donc ça vous donne l'échelle. Hein. Et donc, bien sûr, c'est une vraie menace pour l'unité politique du royaume. Et ça devient très vite évident avec l'éclatement des guerres de religion. Et donc la France, pendant 30 ans, 1562, plus de 30 ans, 1598, va être dans une guerre de religion constante, avec des massacres qui sont restés, bien sûr, extrêmement présents dans la mémoire protestante, comme celui de la Saint-Barthélemy, hein, qui a inspiré à Meyerbeer cet opéra, là, Les Huguenots, qui a été joué récemment. Donc ce sont des héritiers de Calvin, oui, quand même, historiquement parlant. Après, théologiquement, c'est toujours plus compliqué, mais c'est pas ça. Mais...
Qu'en est-il du rapport à la tradition ? Je pense par exemple à tout l'héritage des pères d'église, des différents théologiens. Comment la réforme, il y a une certaine rupture, vous avez dit tout cela. Comment ça a été réintégré ? Est-ce que ça a été réintégré ?
Ça dépend de ce qu'on entend. À l'époque de la réforme, les pères de l'Église, par exemple, continuent de jouer un rôle très important dans la théologie des réformateurs. Calvin les cite tout le temps, bien sûr, dans son sens. Après, je dirais que la tradition, elle a fait son retour. Théologiquement parlant, hein, sans devenir bien sûr normatrice, mais elle a fait son retour au XIXe siècle avec l'émergence de l'histoire. C'est-à-dire que la dimension historique de la foi chrétienne, son enracinement dans des contextes historiques et géographiques et culturels différents, a fait qu'au XIXe siècle, la théologie protestante s'est sentie obligée de tenir compte de l'histoire et de l'évolution de l'histoire dans sa réflexion théologique, et donc de ne plus, comme l'avaient fait les réformateurs du XVIe siècle, de ne plus finalement magnifier la seule Bible comme seule source de son inspiration. Et au fond, on tient tout aussi compte, enfin, on tient, disons, assez nettement compte aujourd'hui de l'interprétation au fil de l'histoire de ce texte biblique dans notre réflexion théologique, interprétation qui est plurielle, extrêmement diverse, et qui donc offre une richesse aussi, une potentialité d'interprétation extrêmement importante. Et c'est une de nos grandes découvertes avec nos amis orthodoxes là, qui sont dans nos murs depuis une année et demie, c'est que, je pense que vis-à-vis de leur cadre ecclésial parfois assez affirmé, ils sont contents d'être dans un endroit où on pose toutes sortes de questions sans trop se préoccuper des conséquences, qu'ils aiment bien, et nous on apprend aussi, je pense, beaucoup de leur de leur enracinement dans la tradition, non pas comme une espèce de carcan fermé, mais comme un lieu d'enrichissement, on va dire ça comme ça.
Merci
beaucoup.